L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur le thème du tatouage. Êtes-vous tatoué? Si oui, pourquoi? Par symbole, par plaisir esthétique, par amour de la douleur ou du porte-monnaie qui se vide? Songez qu'il y a 70 ans, le tatou était encore tabou. Et si vous n'êtes pas tatoué, quelle raison vous mène à ne pas suivre le mouvement? Les rebelles ne seraient-ils pas maintenant ceux dont la peau est encore vierge de tout gribouillis? Je vous le dis, moi je suis tatoué et j'aimerais l'être davantage encore. Et plus le temps passe, plus je connais de gens tatoués ou projetant de le faire. Alors pourquoi le tatouage met-il presque tout le monde d'accord aujourd'hui? Et comment est-il apparu? Comment s'est-il popularisé? Et pourquoi c'est si génial? Pour le savoir, je suis avec les tatoueuses du Boudoir Brutal, Bloody Mary et Mimi Magma. Salut!
Bonjour! Salut!
Mais aussi avec Anna Madison et Clément de La Nuit des Temps.
Salut!
Bonsoir!
Mais également, on n'est pas seulement avec des professionnels, puisque nous entrerons un peu dans les coulisses du métier, mais je reçois également des clients pour pouvoir entrer dans le cerveau malade des tatoués chroniques. Salut Maxime et Margot!
Salut!
Bonsoir!
Et pour finir, j'ai trouvé judicieux d'inviter aussi quelqu'un qui, pour le coup, est absolument rétif au tatouage et qui pourra nous en donner ses raisons ou ses craintes, plutôt ses raisons, je pense. Salut Axel.
Bonsoir.
Alors, on commence sans plus tarder cette émission sur le tatouage.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Alors d'abord, pour faire un peu une archéologie du tatou, est-ce que vous savez à peu près vous, de quand datent les premières traces de tatouage? Est-ce que vous en avez une idée?
Les premières traces où on est sûr, c'est 5300 avant Jésus-Christ.
Ouais, c'est ça que j'ai aussi. Waouh, impressionnant. Et il se trouve qu'en fait, on a aussi... Oui, donc c'était sur un... Les traces de 5300 ans, c'était sur un homme du Néolithique, prisonnier dans les glaces. Voilà,
du coup, je pense que ça doit être Ötzi dont tu parles, qui a été retrouvé dans les montagnes italiennes et qui a presque une centaine de motifs sur lui qu'on pense thérapeutiques. Après, on suppute que les anciennes statuettes, symboles qu'on trouvait, beaucoup de représentations féminines qui avaient des gravures hautes, pouvaient potentiellement être des représentations de tatouages. Mais comme c'est des suppositions, on n'a pas pris ces dates.
Ça marche. Et il se trouve aussi qu'on a trouvé beaucoup de momies avec des tatouages. Et anecdote marrante, Jules César, dans le récit de ses conquêtes, dit que les Bretons arboraient des tatouages, déjà. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que le tatouage n'a été redécouvert en Europe qu'à partir du XVIIIe siècle, grâce aux explorations du continent américain et à la découverte des peuples autochtones tatoués? Qu'est-ce qui a fait qu'en Europe, pendant tout ce temps, on ne parlait pas de tatouage?
Les catholiques?
Ouais. Grossièrement, c'est ça. En fait, au 8e siècle, le pape Adrien bannit le tatouage, qui est considéré comme une pratique païenne. Et du coup, jusqu'à ce qu'on le redécouvre avec les conquêtes espagnoles aux États-Unis, en fait, on ne parlait plus de tatouage en Europe.
Ce qui est en plus particulièrement bizarre, c'est qu'en plus, à l'époque où les catholiques allaient faire pèlerinage à Jérusalem, pour prouver qu'ils étaient partis en pèlerinage, ils rentraient et souvent ils se faisaient faire un tatouage au tampon. C'est comme un peigne en fait, avec plein de petits picots de bois qui représentent un dessin qu'on passait dans la suie, qu'on donnait un coup de marteau dessus sur la peau et ça faisait un tatouage.
Oh.
Et du coup, les chrétiens, pour prouver qu'ils avaient fait leur pèlerinage, arboraient ces motifs-là. Sauf que comme ils chopaient des septicémies et autres en rentrant de leur voyage, la moitié mourait. Et du coup, le pape a interdit pour arrêter de perdre ses fidèles.
Ah d'accord, donc c'était aussi une question quand même de santé publique, on va dire, quelque part. Ok, mais alors ce n'est qu'à partir de la fin du XXe siècle que le tatouage se popularise vraiment en fait. Jusqu'ici c'était une pratique mal vue et même illégale. Alors pourquoi y a-t-il eu longtemps tout ce tabou autour du tatouage selon vous? Là je m'adresse vraiment à vous, parce que c'est un mystère
pour
moi.
Désolé, il y a quelqu'un qui parle. Parce que du coup, quand le christianisme s'est répandu en Europe, il s'est répandu via les Romains et via du coup toutes les colonies romaines. Et à l'époque, les Romains ont détesté la pratique du tatouage parce que c'était une pratique qui était exclusivement utilisée pour marquer les esclaves, les prostituées, les gens qui avaient fait de graves délits ou des crimes. Et du coup, être tatoué, c'était une marque d'infamie. Du coup, les catholiques ont continué sur cette suite-là. Et puis bah, dans les textes bibliques, il est écrit que le corps est un temple à l'image de Dieu et qu'on ne doit pas souiller du coup ce temple. Mmh.
Mais il me semble quand même que dans la noblesse, l'aristocratie, tout ça, on se faisait quand même tatouer, pour le coup.
C'est plus récent. Ça va être à partir des années 1780,
ouais, c'est ça. 1800. Ouais, c'est à cette période-là que je pensais aussi. Mais du coup, c'est étonnant qu'on ait dû attendre si longtemps pour que le tatouage se soit popularisé et se donner une pratique.
Il s'est perdu, hein, parce que le tatouage, au niveau de l'archéologie, on peut prouver qu'il y en a eu absolument partout dans le monde. Partout dans le monde. On disait, les Anglais, on les appelait les Pictes, parce qu'ils étaient recouverts de pictogrammes, donc de dessins à l'époque, et donc on part du principe que c'était des tatouages. Mais les seuls endroits de la planète où il n'y a pas eu de traces de tatouages, qu'on n'en a pas retrouvé, c'est l'Afrique centrale, parce que bah, mettre du noir sur une peau noire, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, on peut prouver qu'ils modifiaient quand même leur corps avec des scarifications, avec des brandings, avec d'autres marques. En fait, je pense que de tout temps, l'humain, quelle que soit sa tribu, son origine ou autre, a voulu avoir une appartenance, a toujours voulu ritualiser en fait ses passages d'enfance, d'adulte, de douleur, de soins, etc.
Alors, on va évoquer un personnage important de l'histoire moderne du tatouage en France. Je pense que tous les professionnels ici le connaissent, c'est Bruno de Pigalle. On écoute un extrait d'un reportage de 1964 sur le premier tatoueur légal de France. Dans cet extrait, on l'entend présenter certains tatouages et leur symbolique.
Il y a trois sortes de tatouages. Il y a le tatouage artistique, le tatouage médical, le tatouage esthétique.
Quels sont ceux qu'on fait le plus actuellement? J'entends en France, à Paris.
Eh bien, ça se situe d'abord pour des garçons de 20 à 25 ans, même 30 ans, voyez-vous. Et alors, c'est beaucoup, beaucoup le reptile.
Ah, qu'est-ce que c'est le reptile? Symboliquement, ça veut dire quoi?
Symboliquement, ça veut dire ou venger ou vengeance. Alors, tout dépend de l'orientation qu'a la tête du reptile. Si elle est en haut, c'est vengeance. Si elle est en bas, c'est venger. Voilà des reptiles ici. Par exemple, ici, voyez-vous, la tête est en bas.
Oui. Ça veut dire qu'il a été vengé.
C'est ça. Ici, la tête est en haut.
Oui.
Alors, il y a ici une tête en l'air.
Oui.
Donc, vengeance. Chagrin d'amour et vengeance.
Chagrin d'amour et vengeance. Donc, il se venge de la femme qui lui a causé son chagrin d'amour.
C'est ça. Alors, d'autres sont des combats de reptiles et automatiquement, ils aspirent vengeance tant que l'animal ennemi n'est pas vaincu. Il y a, dans le tatouage artistique, le tatouage mobile, qui est le grand aigle sur la poitrine, et lorsque l'individu remue les épaules, voyez-vous, remue les bras,
l'aigle vole,
l'aigle remue. Il y a enfin des tas de motifs mobiles.
Mais les
chat autres... sur le bras, lorsque l'on gonfle le bras, le chat fait le dos rond. À l'origine, voyez-vous, le tatouage était dans le fond quelque chose de religieux, une idole. Un totem était tatoué sur la peau de quelqu'un, ça représentait quelque chose pour ce quelqu'un, comme ça représente toujours quelque chose. Et à l'heure actuelle, je pense que la personne qui se fait tatouer son signe, eh bien, c'est une affection particulière à ce signe. Mais vous ?
Et alors, dans le domaine affectif, on se fait tatouer l'amour de son existence.
Là, on attaque les tatouages sentimentaux, parce que ça existe aussi. Et alors, par exemple, voyez-vous, on tombe dans la série des cœurs. Alors ça, c'est l'amour sentimental en général.
En général, oui.
Maintenant, nous arrivons dans une autre série, voyez-vous. L'amour, enfin, le sentiment, est là. Il est marqué, par exemple, à la suite d'un portrait d'une photo. On m'apporte une photo et je m'efforce, en 5 ou 10 croquis, de retrouver l'aspect de la personne que l'on désire avoir tatouée. Et à ce moment-là, c'est vraiment le tatouage sentimental entier qui se rattache à quelqu'un.
Est-ce que vous croyez que les hommes sont plus fidèles s'ils ont la femme tatouée sur eux?
C'est en tous les cas une très grande preuve d'amour. Ça, c'est le cas d'un monsieur qui un jour m'a demandé de lui faire le visage de son enfant. Or, comme il fallait l'agrémenter de quelque chose décoratif, eh bien, j'ai pensé que la rose était tout indiquée, c'est-à-dire que le dessin, par lui-même, est représentatif. Et alors, la rose, l'emblème de l'amour, avec la tête de son bébé. J'ai des tatouages préférés. Voilà par exemple ici, une vahinée à Hawaï, oui, et Singapour. Voyez-vous, ce sont des motifs recherchés, sans trop de couleurs, ce sont des motifs tendres, purement décoratifs.
Vous en avez déjà fait beaucoup comme ça?
J'en ai déjà fait 2 en France.
Et les gens sont heureux d'avoir une belle hawaïenne comme ça sur eux pour le restant de leur vie?
Dès l'instant où un monsieur se fait faire un motif, c'est qu'il le désire. À moins d'être inconscient. Oui.
à moins d'être inconscient, c'est toute la question. C'était donc une interview de Bruno de Pigalle, qui est en fait le premier tatoueur légal de Paris. Il avait eu recours à une espèce de stratagème administratif pour réussir à être tatoueur légal. J'ai pas bien compris comment il a fait, mais voilà, c'était en gros le premier tatoueur légal de Paris. Et donc, j'aimerais que... Est-ce que vous avez des réactions face à ce qu'on vient d'entendre? Parce qu'il y a plein de détails sur la façon dont était pratiqué le métier de tatoueur à l'époque. Est-ce que vous avez relevé des choses qui vous interpellent?
Non, pas plus que ça. Déjà, quand il dit, à moins d'être complètement inconscient, bon, pour avoir fait, et je ne suis pas la seule, quelques covers dans ma vie, bon, on a le droit d'être inconscient aussi de temps en temps et de faire un tatouage qu'on regrette.
Un cover, c'est-à-dire tu tatoues par-dessus un autre tatouage.
Retatouer par-dessus un tatouage existant qu'on n'assume pas et que du coup, enfin qu'on n'assume pas, dont qu'on n'a plus envie d'avoir, tout simplement pour toutes les raisons. Pardon, je ne parle pas assez en face du micro. Et du coup, oui, ça arrive que des gens viennent nous voir pour recouvrir un tatouage parce que ben voilà, ils ont été d'une certaine manière inconscients dans leur vie.
Bizarrement, je ne sais pas si vous savez cet effet, mais c'est de plus en plus.
Alors, plus bien dans le micro.
Avec les émissions qu'on a de plus en plus en ce moment sur des chaînes là, nationales, qui malheureusement, on croit que c'est très facile, sauf que. Quand même loin d'être.
C'est ça, ouais.
Voilà, quand même assez costaud. Et du coup, il y a une espèce d'engouement aussi à ce niveau-là. Et moi, je le vois beaucoup. Il n'y a pas une semaine sans qu'on me demande de recouvrir quelque chose. Quoi.
Ah oui, d'accord. Pas une semaine sans qu'on vous demande de recouvrir un autre tatouage. Ouais. Du coup. Ouais. Donc il y a beaucoup de regrets quand même.
ou il y a simplement aussi de nouvelles techniques. Et justement, ces genres d'émissions-là permettent d'avoir de nouvelles idées. Mais pour le coup. Voilà.
Ouais. Alors moi, je remarque quand même que Bruno Pigalle mentionne dans l'extrait qu'on a entendu que ce sont exclusivement des hommes qui viennent le voir. Or, force est de constater que ça a changé. Hein. Quel rapport d'hommes et de femmes il y a en termes de clientèle? Est-ce que c'est du 50-50
Ça dépend après du style, j'ai envie de dire.
Du style, du tatoueur. Nous, enfin après, je ne sais pas toi, Anna, mais nous, on a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent nous voir. Je ne sais pas, je dirais... deux tiers, un tiers ou trois quarts, un quart, ouais, je sais pas trop, on calcule pas, mais le fait qu'on soit des femmes, ça joue aussi dans la balance. Je sais pas pour toi, Clément, si tu as beaucoup plus de clientèle masculine ou.
Je peux juste dire quelque chose, c'est que les filles sont plus résistantes que les hommes.
Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est complètement vrai.
Voilà, ça c'est
les
vrai,
filles
ça
ont
c'est...
un rapport au tatouage qui est différent aussi parce que du coup vont peut-être plus être dans la recherche d'un. En tout cas, vont commencer par un petit motif. Pour voir ce que ça fait et tout ça, et donc effectivement la clientèle se féminise aussi, mais aussi je pense parce que les femmes en général sont éduquées à modifier leur corps dès l'adolescence avec l'épilation, avec toutes ces choses-là, avec le maquillage et du coup effectivement le tatouage c'est un peu la suite logique du fait de se pimper le corps un petit peu tout ça.
Alors tu disais que la clientèle se féminise, mais il n'y a pas que la clientèle, la profession aussi je crois se féminise, alors que pendant longtemps on a considéré le métier de tatoueur comme un métier d'homme plutôt. Est-ce que c'est toujours difficile aujourd'hui d'affirmer sa place en tant que tatoueuse?
Quand même un petit peu, ouais.
Oui, t'es facilement relayée au pot de fleurs, hein, à la cruche, qui fait bien et qui fait joli dans le salon,
Ça dépend du parcours, ça dépend des salons, de là où tu as fait ton apprentissage. Effectivement, il y a encore pas mal de salons où les hommes travaillent entre eux et où une nana qui arrive là-dedans avec l'envie de devenir tatoueuse, soit va être jetée dehors parce que c'est une femme, soit va être accueillie comme un bout de viande parce que c'est une femme. Et du coup, effectivement, après, ça change quand même, ça tend à changer parce que justement, comme tu dis, il y a de plus en plus de femmes dans le métier. Donc, par effet de boule de neige, effectivement, il y a de moins en moins de cas comme ça, quoi.
Alors, ce qui m'a étonné aussi dans l'extrait qu'on a écouté, c'est cet aspect un peu catalogue de symboles, quoi. En fait, on a l'impression que le choix était assez restreint et que chaque tatouage portait un message très délimité. C'était presque hiéroglyphique, en fait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Plus du tout. Alors, pour faire simple, il y a encore 10 ans, les tatoueurs avaient des catalogues qu'on pouvait même acheter chez le fournisseur, mais souvent ils le faisaient eux-mêmes ou ils l'achetaient, hein, n'importe. Et en fait, un flash dans sa plus pure expression, c'est un dessin dans un catalogue qu'on choisit et qu'on reproduit. Il peut être fait sur 1, 2, 10, 20, 100 personnes. C'est un flash, c'est un one shot. Il est fait exclusivement pour de la repro. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, comme le flash a énormément évolué et que bah, les tatoueurs sont quand même beaucoup plus des dessinateurs qu'avant, maintenant, ça se perd. Le flash, c'est devenu quelque chose qu'on fait sur mesure ou quelque chose qu'on sélectionne comme une œuvre originale d'un tatoueur, mais qui va être reproduit normalement, hein, sauf exception, qu'une seule fois sur la personne.
Ah oui, parce que le métier de tatoueur n'a pas toujours été vraiment lié avec le métier de dessinateur, en fait.
Non, c'était de la repro.
D'accord, ok, ça marche.
Puis je voudrais rajouter aussi par rapport à ce que dit Mimi, que jusqu'à il y a 10, 15 ans, peut-être un peu plus, le tatouage était lié à une envie d'avoir une appartenance à un groupe social. Les repris de justice, les marins, les trucs, enfin, je reste dans les clichés, mais voilà. On se faisait tatouer tel ou tel motif pour montrer qu'on appartenait à ce groupe social-là. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On va se faire tatouer pour montrer notre particularité, notre personnalité. Donc, en fait, c'est pour s'exposer soi-même et pas appartenir à un autre groupe. Donc, d'accord. En fait, la démarche a complètement changé par rapport à ça.
On est passé de l'affirmation de l'appartenance à un groupe à l'affirmation d'une singularité.
L'affirmation de soi.
D'accord. Wow. Alors, on peut peut-être se tourner vers les clients ici présents pour se renseigner un peu sur la signification que peut apporter un tatouage aujourd'hui. Qu'est-ce qui représente, en fait, vos tatouages pour vous ?
Une partie de nous-mêmes.
Une partie de toi-même, c'est-à-dire ?
Alors, moi, j'ai pas vraiment de signification sur mes tatouages. Genre, ça va parler de mon histoire ou ce genre de choses. Je suis simplement soigneur animalier, je suis passionné par les animaux, mes tatouages c'est que des animaux et c'est vraiment une façon juste de me... Oui, la petite tête est là. c'est aussi une petite envie d'être différent de tout le monde en fait. Vraiment c'est moi, c'est ma personnalité, j'aime bien qu'on puisse le voir d'un clin d'œil comme ça sur moi au lieu de passer 3 siècles avec moi et de faire « Ah oui, il est sympa lui !» Donc c'est ça, moi c'est plus me rendre différent de tout le monde en montrant ma personnalité.
D'accord. Et Margot ?
Bah moi j'ai fait des tatouages par signification, mais pas que. Il y a des tatouages parce que je trouve vachement joli. Du coup, je l'ai fait. Et puis, oui.
D'accord, donc il y a les deux démarches, en fait. C'est soit ça peut porter un message qui est en rapport à ta vie, une signification personnelle, soit c'est juste un coup de cœur esthétique, quoi.
Exactement.
D'accord. Et alors, au niveau de la proportion signification jusqu'au coup de cœur érotique, tu fais plus souvent dans la signification ou plutôt dans la signification esthétique ?
Je vais souvent dans la signification. Et après, souvent, en fait, le côté esthétique, j'en trouve moi-même ma signification, en fait.
D'accord. C'est après coup, en fait, que tu lui donnes
une signification. Ouais, c'est ça, il y a des flashs. Et puis, en fait, finalement, je regarde, je fais « Ah, il y a 3 branches. Ah, c'est marrant, on est 3 dans ma famille, j'ai 2 sœurs. » Et je suis en mode « Oh, bah, en fait, c'est... on va dire que c'est pour elle, quoi. »
Et alors, vous êtes beaucoup tatoués tous les deux ?
J'en ai 5.
Ok.
Qu'est-ce que c'est beaucoup tatoués, finalement ?
À quel moment ? C'est la vaste question, oui. Est-ce que vous avez toujours de nouveaux projets en tête, en fait ?
Oui. Oui.
À partir du moment où on vient tous les trimestres...
Salut ! Ouais, j'en ai beaucoup. Enfin, c'est quoi, beaucoup ? Hein ? 26, c'est beaucoup ?
Pas mal,
ouais. Ça dépend si c'est...
Non, il y a des petits. Il y a des petits sur les doigts.
Je pense que c'est ça, la step, ouais.
Le service inverse.
Il faut voir aussi le côté 26 petits tatous qui ont pris 30 minutes à être faits ou 3 tatous compris 8 heures. Bah,
exactement.
J'en ai que 3.
C'est ce qu'elle dit, Anna, c'est quand tu commences à calculer la place qui te reste.
Oui, c'est ça.
Je suis arrivée à ce stade-là, même de me dire, où est-ce qu'il me reste de la place ?
Et puis, c'est ce que disait Maxime, le rapport à la taille aussi, parce que toi, tu fais plutôt des gros tatouage, j'ai l'impression. Ouais. Mm-hmm. Donc, tu as déjà pas mal de parties du corps qui sont déjà bien recouvertes. Quoi.
Et justement, je commence à réfléchir à ce qui reste.
Et après, sinon, il y a les covers. Hein.
Ça marche aussi. Et du coup, est-ce que vous avez. Vous envisagez éventuellement de vous faire tatouer tout le corps ou est-ce que vous voulez garder de l'espace libre Non, toi, Maxime, tu veux pas que ce soit tatoué partout, quoi.
Non.
Et pourquoi
Je sais pas, je vois pas comment je peux déjà réussir à tout me tatouer en aimant tout ce qu'il va y avoir. Et j'aime bien qu'ils soient un peu séparés. C'est-à-dire que la plupart de mes tatouages, moi, ils sont vraiment très, enfin quand même un peu proches, mais toujours écartés.
D'accord. T'aimes bien que ça respire entre les deux, quoi.
Un peu comme des autocollants. Enfin,
Et Margot ?
Bah moi, je sais pas. Je sais juste que je vais pas faire le visage, juste pour ma maman.
D'accord.
Voilà. Ma maman l'a dit tout, hein, mais pas le visage.
Tu vas changer d'avis.
J'hésite vraiment sur le côté. Ben, j'ai déjà les oreilles. Les oreilles, ça compte pour le visage.
Alors, on va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Electro Deluxe et Hyper Jacuzzi le 29 mars à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Tattoo par The Who.
Talking to each other about what makes a man. Was it brain or brawn or the month you were born? We just couldn't understand. Our old man didn't like our appearance. He said that only women wear a long hair. So me and my brother from mother, we knew what we had to do. We went downstairs past the barber and gymnasium and got our arms tattooed.
Welcome to my life tattoo. I'm a man now thanks to you.
I expect I'll regret you, but the skin rough man won't get you. Dad beat me 'cause my said mother, but my mother naturally liked it and beat my brother 'cause his tattoo was of the lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude.
Welcome to my life tattoo. We've a long time together, me and you.
I expect I'll regret you, but the skin rough man won't get you. You'll be there when I die. Tattoo. Now I'm older, I'm tattooed all over. My wife is tattooed.
De retour dans l'amphi, je suis toujours avec Bloody Mary qui parle beaucoup, Amy et Magma de Baudoir Brutal, Anna Madison et Clément de La Nuit des Temps, deux salons de tatouage du Mans, ainsi que Maxime et Margot qui sont deux salons de tatouage. Et enfin Axel qui est là en tant qu'autre voix puisqu'il ne tient pas à se faire tatouer à l'heure où c'est pourtant devenu un phénomène de masse. Alors j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à vous faire tatouer, voire à entrer dans la profession. Quand on se renseigne sur l'histoire du tatouage, on découvre que la tendance explose dans les années 90, notamment grâce au rockstar. Est-ce que ce sont des rockstars qui ont fait naître la passion du tatouage chez vous?
Bah, je dis plus rien, hein, du coup.
Je parle trop. On doit parler.
Mais pas du tout.
Rien à voir avec les rockstars.
Rien à voir avec les rockstars.
Dans les années 90, vous aviez quel âge aussi?
J'étais pas née. Voilà.
Est-ce qu'on a le droit de balancer des verres sur les gens ou...
S'ils sont vides, ça devrait aller normalement. Donc rien à voir avec le rock. Enfin, avec les rockstars, en tout cas. Non. Parce que tout de même, on assimile assez facilement la mode du tatouage à celle de la musique rock, métal. Est-ce que vous confirmez ce rapprochement?
Les clients, oui, pareil, parce que le rock, le métal, c'est les bad boys, c'est les bikers, c'est les méchants garçons. Du coup, bah, c'était logique qu'il se tatoue. Ouais. Mais ça, c'était dans les années 90, quoi. C'est fini.
Et puis, c'est un peu réducteur aussi, parce que dans les années 90, il y avait aussi beaucoup de rappeurs, surtout au rap US, ouais, qui étaient aussi très tatoués. Il y a le rapport avec les gangs, il y a le rapport même au Japon, bah, il y a les Yakuza, tout ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France qui se font tatouer des tatouages d'inspiration japonaise. Mais bon, je parle beaucoup, alors j'arrête.
Je vais ajouter une petite chose. C'est juste parce qu'on t'avait entendu au moment où j'ai rallumé les micros que j'ai dit ça.
Je vais ajouter une petite chose, mais au niveau militaire et armée, comme il y a énormément de dom-tom, il y avait énormément de gens, moi je suis un ancien militaire, et énormément de gens étaient tatoués avec du maori, etc. Parce qu'on avait les personnes tous les jours dans nos dortoirs, etc., qui étaient tous tatoués. Nous, on ne l'était pas du tout, et donc c'était extrêmement commun, quoi. Et ça s'est développé. Parce que je pense que c'est de là qu'est venue la passion du tatouage maori, puis tribal, etc. Quoi.
Dans tous les cas, effectivement, pour ce qui est de la redécouverte du tatouage dans les années 1700, c'est clairement la colonisation des îles Cook.
Plus près du micro, s'il te plaît, Mimi.
C'est la colonisation des îles Cook dans les années 1700 qui, effectivement, a ramené le tatouage en Europe, l'a remis au goût du jour. Et rien que le mot tatouage qui vient du mot tato. Tato, c'est le marquage, c'est le dessin polynésien.
Mais je suis pas aussi vieux. Mais...
Il n'y avait pas Britney Spears aussi.
Britney Spears.
Non, rien.
Mais après, effectivement, toutes les figures pop, rock, metal ou autres sont potentiellement des modèles pour des personnes plus jeunes ou pour des fans ou autres. Après, c'est pas forcément ça qui détermine. Qu'on passe à l'acte ou pas, je pense, je sais pas.
Les joueurs de foot.
Les joueurs
de foot ont beaucoup.
Toutes les personnalités, en fait. Quoi.
Peut-être que ça a aussi développé le fait que ça se démocratise, que ce soit pas juste des métalleux ou des rappeurs, mais aussi Rihanna, un joueur de foot, ci ou ça, des personnes, ou même Angelina Jolie, enfin, je veux dire, des gens célèbres, mais plus mainstream, j'ai envie de dire. Si même ces personnes-là commencent à se faire tatouer, ça veut dire que nous aussi, on peut se faire tatouer.
Alors, on va entrer un peu plus en détail dans le métier de tatoueur, de tatoueuse. Je veux savoir un peu, très brièvement, quel a été votre parcours, en fait, jusqu'à accéder à ce métier-là, en fait. Est-ce que ça a été direct ou est-ce que vous êtes passé par d'autres choses Clément qui a désigné du doigt.
Non, mais moi, en fait, j'aimais beaucoup le monde du tatouage. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer sur moi d'abord pour pas...
Ah, d'accord. Voilà. Ouais. T'as des tatouages que tu t'es fait toi-même.
Ouais, bien sûr. De toute façon, là, aujourd'hui, on parle de peau synthétique, mais ça a rien à voir avec la peau humaine, en fait.
Ouais.
Donc, je pense que il faut, au bout d'un moment, faut y aller, et puis faut se tatouer soi-même. Et puis
ça doit être vachement difficile.
Alors moi,
ça fait mal.
je trouve que ça fait moins mal parce qu'on est tellement concentré à pas faire de bêtises qu'au final, ça passe mieux de se tatouer soi-même.
Ça fait moins mal que quoi?
Ça fait moins mal que de se faire tatouer par quelqu'un d'autre.
Ah d'accord.
Avec
quand tu tatoues les clients.
J'ai effectivement personnellement moins mal quand je tatoue quelqu'un d'autre. J'ai vu comment. Moi je me suis entraînée sur moi, mais en fait dès que j'ai vu que mes traits étaient à peu près propres, je me suis entraînée sur mon mari qui était consentant. Hein, je précise. Je me suis rendu compte qu'effectivement c'était beaucoup moins douloureux.
Tu t'es entraîné aussi sur un client qui s'appelle Lucas aussi, qui a énormément... Ou je sais plus si c'était Mimi Magma ou toi, qui avait beaucoup... Non, vous ne souvenez pas de Lucas.
Non, c'est peut-être moi, Lucas.
Lucas, qui avait énormément... Et je ne sais pas trop où il est actuellement.
Ouais, c'est ça.
Mais il avait énormément de tatouages de vous. C'est vrai que quand il nous les montrait, c'était marrant, parce que il y avait beaucoup de débauches, de trucs comme ça.
Ah,
c'était un cahier de brouillon, le gars. Quoi.
Et puis il y avait des projets un peu spéciaux, mais je veux dire, un peu décalés, on va dire.
Tu penses au canard?
C'est ça, c'est ça. Au
canard fichot réaliste.
Réaliste avec du coup un poireau.
Excellent.
C'était un de mes préférés. Vraiment, il était somptueux.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos salons respectifs, La Nuit des Temps et Boudoir Brutal?
La Nuit des Temps, j'ai ouvert toute seule il y a tout juste 4 ans, la veille du confinement, donc le vendredi 13 mars 2020.
Ah oui, c'était peut-être pas le bon moment pour ouvrir.
Non, mais tu le saches. Tant de jours après, on nous tombe l'annonce et voilà. Et puis, je suis restée fermée donc, les 2 mois durant. J'ai rouvert le 11 mai 2020. Et Clément m'a rejoint dans les 2 ans qui ont suivi. Ça fait donc 2 ans maintenant que tu es là.
Bien dans le micro, par contre, on ne t'entend pas toujours.
Et j'ai commencé toute seule. Clément est venu me rejoindre il y a 2 ans. Et depuis, donc, on est 4. Donc, moi, je suis un peu plus spécialisée dans le réalisme, micro-réalisme. Et je suis en train de m'orienter là, vers un style plus primitif suite à un voyage, bref.
Et Clément, donc plus axé sur
le noir,
la grosse ligne.
Le noir et ses déclinaisons.
D'accord, ok.
Un peu noir, beaucoup noir.
C'est voilà. Le pire soulage du tatouage.
Voilà.
Ma collègue Hélène, elle est plus sur la fine ligne, quelque chose d'un peu plus ouais,
féminine.
Féminine, ouais, avec des choses assez fines, beaucoup, très florales, très, très candy. Et Benoît qui est plus sur une technique donc de handpoke, donc un peu plus pour le coup.
Ancien.
Ancien, ouais, voilà. La méthode originelle du tatouage.
C'est quoi le handpoke?
Le handpoke, c'est avec une aiguille, tu fais du point par point pour faire un motif.
Ah ouais,
sans machine,
ouais,
sans machine,
sans électricité.
Mais ça doit être très très long à
très
faire.
Très long,
ça.
Mais le résultat est vraiment aussi très bien parce que c'est moins abrasif pour la peau.
Il faut être courageux, j'imagine, quand même, pour endurer ça.
Ouais, mais ça.
Ça fait beaucoup moins mal,
ça fait
que la machine.
Moins mal.
Ah ouais.
Et puis en plus, on peut aller sur des zones moins compliquées, du style les oreilles, c'est bête, mais.
D'accord.
Le cou, tout ça, voilà.
Ok. Et alors, pardon, je me suis perdu dans mes questions. Tac, tac, tac. Oui, je voulais vous demander. Ah non, on est toujours sur le boudoir brutal.
Oui,
du
ouais.
coup, c'est vrai qu'on n'est pas passé sur.
Ou bah après.
Ah bah non, mais. Vas-y. Présentez le boudoir brutal, je vous en prie.
Je sais plus du tout depuis combien de temps on bosse ensemble, Marie.
Alors, on a ouvert en septembre 2018. C'est, oui, c'est moi qui retiens les dates dans notre
Ouais, non, moi j'aime pas, j'aime pas les dates. Et depuis, on est toujours ensemble.
Ouais.
Et on
a passé
toujours.
La crise des 3 ans.
On a passé la crise des 3 ans de couple. Et on a même une collègue qui nous a rejoint. Bah, ça va faire 2 ans ce mois-ci. Là,
ouais, c'est vrai.
Axel Jubier.
Ouais.
Une adoption.
Ouais.
Ouais,
on a fait une adoption.
Axel,
une adoption mignonne.
Voilà. Donc, nous, dans les...
Marie, elle fait plutôt du new school.
Ouais.
Du new school, du moderne. Et du... Enfin, c'est une espèce de néo-trad un peu new school.
Oula, c'est
compliqué des fois. Et moi, je fais principalement du figuratif et un peu d'ornemental.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par néo-trad, new school?
Ah, c'est compliqué parce qu'en fait, moi, je suis issue d'une formation plus dessin animé, bande dessinée. Et du coup, alors, ce qu'il faut entendre par néo-trad, de base, on va dire, c'est ce qui va ressembler à l'art nouveau, on va dire, avec à la fois de la couleur assez douce, mais aussi des grosses lignes et des lignes plus fines, beaucoup de motifs floraux ou de personnages, tout ça. Et puis, en fait, de cette grande famille-là vont se décliner plusieurs styles. Et en fait, c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment des personnes... issus de l'illustration, du dessin et tout ça, qui vont avoir des styles qui sont tellement personnels que ça devient difficile de les catégoriser vraiment. Et au plus j'avance dans mon métier, et au plus j'essaye de tendre vers quelque chose d'identifiable au premier regard, on va dire. Alors, c'est pas toujours évident, parce que ça dépend aussi de la demande de la clientèle et tout ça. Mais du coup, effectivement, ça devient difficile de mettre juste une étiquette. On peut pas dire que c'est du réalisme, on peut pas dire que c'est de l'ornemental. Voilà, c'est compliqué.
D'accord. Alors là, une question plutôt pour les clients. On l'a vu, chaque tatoueur, chaque tatoueuse développe son propre style. Alors, comment choisir à quel professionnel s'adresser en fait? Donc, par exemple, Maxime et Margot, comment est-ce que vous êtes dirigés vers tel ou tel tatoueur, tatoueuse?
J'ai regardé son style. c'est vraiment...
Mais tu recherchais quelque chose précisément ou t'as juste... fouiller dans différents profils de tatoueurs et tatoueuses que tu connaissais
Oui, j'ai utilisé le magnifique Instagram pour voir justement Google. Ça, mais bah, moi, vu que j'étais dans les animaux, je cherchais un tatoueur qui en faisait beaucoup.
D'accord.
Pour être sûr qu'il adhérait au projet que j'allais lui proposer. Ce que j'aime aussi, c'est de proposer un tatoueur qui va... Enfin, un tatouage qui va plaire au tatoueur.
Ok. Et Margot?
Bah, ça fonctionne beaucoup déjà avec les réseaux. Il y a aussi du bouche à oreille encore. Les gens, ils voient un peu ton corps, ils font oh, j'adore le tatouage et tout, c'est qui l'artiste.
Ouais.
Et après, bah, on rencontre aussi des tatoueurs, salut Anna. Et on se dit oh, je t'aime vachement bien, j'aime bien ce que tu fais. Et puis, bah, on y va plusieurs fois. Quoi.
Alors, est-ce que vous faites faire plutôt des flashs, c'est-à-dire des dessins tout prêts proposés aux clients par le tatoueur ou la tatoueuse, ou bien plutôt des projets perso que vous proposez à l'artiste?
De mon côté, c'est que des projets.
Que des projets, ouais.
Je ne suis pas attiré par les flashs.
Et alors pourquoi?
Parce que j'ai mes idées en tête, il faut que ça soit comme j'ai envie.
Que ce soit comme tu as envie.
Et exactement. Généralement, les flashs, bah, je les kiffe toujours, mais il y a toujours un petit détail où je fais non, on va faire comme je veux.
Et Margot?
Bah, moi, je fais les deux. Mais souvent, les projets, en fait, je dis un peu l'idée, et puis après, je dis, bah, c'est toi qui dessines, donc je te fais confiance.
Oui, parce que comment ça marche en fait quand on vous propose un projet? Comment est-ce que vous en emparez en fait?
Avec Marie, on se le répartit au Shifumi.
D'accord.
C'est souvent moi qui gagne.
Non, c'était pas trop la question. C'était plus. Bon, disons que Marie, tu as gagné au Shifumi. Ou tu as perdu, je ne sais pas.
Alors, en fait, nous, on a un fonctionnement qui est particulier au sein du shop. C'est-à-dire que au niveau des gens qui nous contactent, déjà, ils envoient un mail à Boudoir Brutal. Et c'est moi qui vais gérer entre si les gens on demande un tatouage avec Mimi ou un tatouage avec moi. D'accord. Et il y a notre collègue Axel qui, elle, aime bien gérer ses mails toute seule. Mmh. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais Axel va avoir un style plus enfantin, Ghibli, tout ça, très, très doux, très léger. Bref, allez voir son travail, c'est super joli. Axel Jubilé. Du coup, voilà, donc elle gère ses projets, nous on gère les nôtres. Et donc après, bah, nous, les gens nous contactent par mail, nous parlent de leurs projets. Donc après, moi, je répartis, voilà. Si les gens ne savent pas, bah, je leur propose de regarder nos travaux respectifs pour qu'ils se fassent une idée. Et puis ensuite, on développe le projet ensemble. Alors, si c'est un gros projet, bah, du coup, je leur propose de venir au shop pour avoir un rendez-vous de repérage. Ils peuvent nous envoyer aussi des images d'inspiration. Mmh. Et j'insiste bien sur le côté images d'inspiration, parce que du coup, on ne fait pas de reproduction. Donc, ça ne servira à rien de nous envoyer une photo en disant « je veux ça », parce qu'en fait, on fera forcément quelque chose d'autre. Et puis, bah, vraiment quelque chose qui soit unique et personnel pour la personne qui le fait. Et si la personne vient de là, on peut aussi se contenter d'échanger un maximum par mail jusqu'au jour du rendez-vous.
Et alors, ces images d'inspiration, ça consiste en quoi en fait?
Donner des axes de recherche.
D'accord.
Un petit peu, échafauder un petit peu les grandes lignes, quoi, de manière à ce qu'on sache où est-ce qu'on part.
Ok, très bien. Et pour les gens qui dessinent, je précise un peu plus ma question parce que je sais que ça se fait aussi. On peut vous proposer un dessin fait. Enfin, le client peut vous proposer un dessin qu'il a fait avec l'image en tête de ce qu'il veut se faire tatouer. Et après, vous le reproduisez un peu dans votre style à vous. C'est possible ça aussi?
Ouais.
D'accord.
On a eu plusieurs fois le cas. Alors, soit effectivement, la personne fait un dessin, mais n'a pas forcément suffisamment de compétences en dessin pour avoir envie d'avoir son dessin tatoué sur lui ou elle. Et on a aussi des gens qui veulent avoir, compétences ou non d'ailleurs, des fois c'est... bon voilà, mais qui veulent avoir soit leur propre dessin, et c'est aussi arrivé que des gens nous envoient en fait un dessin créé par un illustrateur ou une illustratrice, et avec l'accord de l'illustrateur ou l'illustratrice, se le fasse tatouer. Mais il faut toujours qu'il y ait l'accord de la personne, et soit parce que c'est un ou une amie, soit aussi parce que ça arrive, il y a des illustrateurs qui proposent à la vente leur dessin, donc souvent ça va être 40 ou 50 euros, pour après pouvoir se les faire tatouer.
Ok.
Donc nous, après, il nous faut la certification, on va dire, que l'auteur ou l'autrice du dessin est d'accord pour que la personne s'en serve. Ça marche pas pour les Mickey. Enfin, je veux dire, les Mickey, on va pas aller demander à Disney. Hein.
Ils sont libres de droit.
Oui, mais il y a d'autres choses.
Alors, je me tourne à présent vers Axel, notre invité qui n'a pas de tatouage et ne compte pas se faire tatouer. Est-ce qu'il y a des raisons particulières à cette réticence?
Ma mère? Non.
C'est une raison.
Non, mais ça peut l'être. Je sais qu'elle n'est pas trop d'accord là-dessus. Ça peut être influer les choses. Après, moi, j'ai passé 40 ans aussi, donc automatiquement, je ne suis pas la génération où tout le monde était tatoué. Mais j'ai toujours adoré tout ce qui était tatouage japonais. Je suis la génération manga, donc on voyait tout ce genre de choses. Mais je crois que c'est le côté éphémère. Moi, j'aime le côté éphémère. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement. Je vais faire un voyage, je vais avoir un coup de cœur. Je vais dire, je veux ce genre de tatouage ou autre. Et en fait, je me dis, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en veux plus.
D'accord.
Donc c'est ce côté permanent qui va me bloquer. Et il y a aussi l'autre côté, c'est toutes les personnes que je vois sur la plage ou pendant des festivals avec leurs gros pâtés parce qu'ils prennent pas soin de leur peau, automatiquement, je me dis, c'est quand même du travail. Hein. C'est quand on a un tatouage, on met de l'indice 50 et puis...
c'est de l'entretien, effectivement.
Bah, exactement. Donc, et puis c'est à vie. Alors donc, il y a aussi une contrainte.
Et alors Margot et Maxime, pourquoi ça vous effraie pas cet aspect-là, pour le coup, du fait qu'un tatouage, c'est périn, quoi, ça dure toute la vie?
Personnellement, je suis un vampire, donc je ne fais pas souvent le soleil, ça ne me gêne pas trop.
c'est effectivement, ça marche bien.
Bon, ouais, c'est pas un truc qui me fait peur, moi, tout ce qui est plage, se trimballer au soleil, ouais, non, je kiffe pas.
Le soleil, c'est un des arguments, ouais. Mais j'insistais plus sur le côté, c'est pour la vie, quoi. Pourquoi ça t'a pas fait peur, cet aspect-là?
Alors là...
Non, tu saurais pas répondre à ça?
Non, juste ça me fait pas peur, expliquer pourquoi... Je compte pas changer totalement dans ma vie de personnalité, donc je sais que ça m'a toujours aimé. Il y a les covers au pire pour me sauver, mais je compte pas.
Après, vu les grosses pièces que tu fais,
vu la taille des pièces, voilà, ça va être rigolo le cover.
Mais voilà, je pense pas vraiment l'utiliser, le Joker. Mais non, juste vraiment, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. J'y ai réfléchi quand même. On va dire quand même, c'est toute la vie. Mais dans ma tête, je compte pas être dégoûté dans 10 ans de ce que j'ai sur moi.
Et Margot?
Non, moi j'y ai pas trop pensé. Enfin, des fois j'y pense et je suis en mode waouh, du coup je les ai vraiment là. Bon, bah on est foutu quoi.
C'est parti.
Et puis, bah c'est parti. Et puis en fait, je me dis, bah même si ce tatouage je l'aime plus ou je l'aime moins ou c'était une période de ma vie, bah en fait ça a été moi. Ça reste moi quand même. Du coup, je l'aime bien cette petite partie de moi. Genre, j'ai une part de pizza parce que j'étais trop sous en soirée. Bah elle est tu vois. Je dis, bah parce qu'en vrai j'aime bien la pizza quoi. Okay. Finalement, on aimera toujours la pizza.
C'est les tatouages les plus cools, ceux-là.
Ouais.
Alors, je reviens donc à présent vers nos tatoueuses et notre tatoueur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe, une séance de tatouage? Imaginez que vous parlez justement des gens qui ne se sont jamais fait tatouer. Comment ça se passe?
Bah, déjà, dans un premier temps, on échange énormément, que ce soit sur les réseaux, par message ou direct au salon pour pouvoir échafauder donc justement une idée, un projet, etc. Quand on arrive donc au studio pour le jour J, donc on propose un café,
déjà.
et puis suite à ça, donc on est d'accord avec le client sur le motif, l'emplacement, la taille. S'il y a des modifications, bien évidemment, on y porte direct. Suite à ça, donc on fait remplir une fiche de décharge avec aussi les renseignements sur la personne. Si même il y a des risques allergènes, etc. On donne en parallèle, juste avant d'aller tatouer, une fiche de soins, que pendant ce temps-là, nous, quand on va monter notre poste de tatouage, nos outils, etc., la personne se permet de s'imprégner un petit peu des soins. S'il y a des questions, on pourra y répondre juste après. Suite à ça, donc, le motif est retranscrit sur une feuille qu'on appelle papier carbone, qui délimite un petit peu soit l'entièreté du dessin, soit juste les grandes lignes, de manière à après justement aller le fixer, le coller sur la peau, et après on est parti. Et voilà.
Ça marche.
Et ça fait mal.
Justement, est-ce qu'on peut répondre aux questions classiques, c'est-à-dire douleur, coût, hygiène?
Alors déjà, douleur, c'est propre à chacun pour le coup. C'est propre à chacun, c'est propre aussi à son état physique et psychique. C'est propre aussi à la manière dont on a dormi la veille, c'est bête, si on s'est suffisamment nourri ou hydraté. Et puis, ça va dépendre aussi, bien évidemment, de la grandeur de la pièce, le temps de travail. Si c'est très foncé, forcément, on y passe beaucoup de temps, la peau est quand même assez attaquée, donc il faut prendre soin, il faut faire attention à ça. Et puis, ça, c'est 70-80% du travail, mais il y a aussi quand on rentre à la maison. Il faut faire attention à ce qu'on va mettre dessus. Si on va faire un mode déj ou un match de foot le lendemain, évidemment, il est évident qu'il ne faut pas venir se faire tatouer. Ou du moins, tu décales. Mais si tu ne peux pas décaler, c'est tes risques et périls. Mais après, en termes de coût, ça va encore dépendre de la taille, de l'emplacement, du nombre d'heures qu'on va mettre. Le matériel aussi investi, pour le coup. Et voilà.
Et c'est quoi le coût minimal pour un tatouage?
Ça va dépendre des shops.
Ouais, ça va dépendre, ouais.
D'accord. Ah oui, moi je pensais qu'il y avait un coût assez général.
Si c'est moins de 50 euros, ça craint quand même.
On n'y va pas à court
en fait.
Pour être complètement transparent, nous on va être sur un minimum de 80 euros.
Ouais, voilà.
D'accord.
Sortie d'aiguille.
Parce que en fait, ce coût-là, il va comprendre le temps de travail, c'est-à-dire le temps d'installation avant le tatouage, le temps de nettoyage après le tatouage. Le temps aussi d'échange par mail et tout ça, du temps qui est non rémunéré. Hein, on fait ça.
Et puis le temps de dessin aussi, j'imagine.
Des fois pour un tatouage de 80 euros, parce que imagine, tu veux faire 3 points, prendra 80 euros.
Ah oui,
donc là, il n'y a pas de temps de dessin. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce minimum-là, il existe et il est incompressible parce qu'aussi, il faut qu'on paye le shop, l'électricité, tout ça. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire moins que ça. Après, tu vas avoir des shops avec soit par exemple dans des grandes villes comme Paris, où là, tu peux avoir des minimums à 100, 150 euros parce que forcément, le coût est plus cher. Et puis aussi,
avec des fois des tatoueurs qui sont très renommés, qui ont beaucoup de demandes et qui, du coup, comme quand tu vas acheter une œuvre d'un grand artiste, ça va être plus cher. Quand tu vas voir, il est mort, mais Johnny Hallyday en concert, ce sera plus cher que si tu allais voir Tirly Point Point. Et ben, c'est pareil, du coup, Tirly Point Point n'existe pas, je vous le dis.
Je ne cherchais pas sur Google.
Des fois aussi, le coût du tatouage, tu payes les compétences du tatoueur et donc, s'il a de la renommée, ça va être plus cher.
Et alors, Maxime et Margot, c'était quoi votre tatouage le plus cher, par exemple? Et quel espace il prend sur vos corps?
J'espère que c'est pas la part de pizza.
600 euros. Non, je rigole. Non. Ça fait cher, la pizza. Oh bah. Moi, je sais pas. Je crois que je suis à 250, 300.
Le plus cher?
Ouais.
D'accord. Ouais, bah Maxime.
Ah non, je suis peut-être à 500 si on compte. Mais c'était en deux fois, tu te rappelles? Ouais. C'était mes deux bras. Ouais. Bon, enfin voilà.
Et oui, ça prend. C'est, ils font quelle taille à peu près
Oh bah, j'en ai des petits, des moyens, des grands.
Et du coup, le plus cher, il fait quelle taille?
J'ai pas à mesurer. Hein.
Non, mais enfin, il te prend le bras, quoi, globalement.
Deux arrières de bras. Hein.
Mm-hmm. Deux arrières de bras.
D'accord, ok.
Et s'il y a le dos aussi. J'ai souffert, ça fait mal.
Ah ouais. Voilà. Et alors Maxime, du coup?
Bah moi c'est 1000.
Ouais.
Voilà. Je suis en train de le finir.
C'est celui qui prend tout le bras en fait.
Bah on peut dire ça parce qu'il n'est pas vraiment sur tout le bras, mais il va tout en haut.
Ça marche. Alors est-ce que ça peut toujours être un frein social le tatouage, par exemple dans un entretien d'embauche? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Moi ça avait été un avantage à l'époque où je travaillais. Très
ah oui?
Ouais, j'étais en restauration et mon patron m'avait pris exprès. Parce que justement ça...
D'accord.
On se souvenait du resto après.
Ah c'est drôle ça. Ouais. Ok.
Clément il peut plus changer de métier. Hein.
Ouais. Un petit peu visible. Ça tombe bien, je voulais pas bosser dans la banque, je sais pas compter. Ouais,
j'ai envie de dire ça dépend des, ça ouais, dépend ça peut des être métiers. Un frein. Mais de moins en moins, en tout cas dans nos clients, il y a de plus en plus de gens. Par exemple, moi quand j'ai... Pourtant, c'est pas si vieux que ça que j'ai commencé à tatouer. Mais la première fois que j'ai tatoué une femme gendarme, elle me disait je l'ai fait cacher parce que c'est mal vu. Mmh. Et dernièrement, j'ai tatoué un gendarme et un policier, par exemple.
D'accord.
Et là, du coup, ils cherchaient plus à les cacher. Donc, on voit quand même quotidiennement que ça évolue.
Oui. Bah, officiellement, c'est devenu interdit de débaucher quelqu'un ou de ne pas le prendre à cause d'un tatouage. Mais encore faut-il être capable de le prouver.
Oui, c'est ça. Oui, c'est comme toutes les formes d'ostracisation dans les entretiens d'embauche, de toute façon. Alors, maintenant, on va aborder une question à laquelle je tiens, qui est une question un peu plus théorique, on va dire, c'est celle du statut artistique du tatouage. Est-ce qu'il faut considérer le tatouage comme un art, selon vous?
Bah oui.
Oui. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de statut. Hein, notre code Apple, il est entre les médiums et les toiletteurs pour chiens.
Et puis, je dirais de plus en plus, parce que maintenant, c'est plus de la repro de Flash. Il y a vraiment une étape de création qui est très importante.
Alors effectivement, il y a l'étape de dessin le dessin c'est un art depuis longtemps, mais dans l'activité même du tatouage quoi. Disons à l'époque on en est encore à faire de la reproduction. Est-ce que juste l'acte même de tatouer ça constitue un art? Est-ce qu'il y a un art vraiment du tatouage quoi? Je sais pas si je me fais comprendre.
Au-delà de l'art, c'est une technique, donc oui, on peut apparaître ça de l'art pour le coup. Ouais.
Ouais, mais du coup, si c'est juste une technique, est-ce que c'est pas plutôt un artisanat?
À quel moment tu fais la différence entre un artisanat et de l'art? C'est au moment où il y a le concept de création. C'est-à-dire qu'un carreleur va être un artisan, mais s'il commence à faire des super motifs avec des bouts de carrelage pétés, ça va être un artiste.
Ça marche. C'est une réponse. C'est une bonne réponse, je trouve.
Et sachant que l'idée est toujours pour remettre l'art du tatouage au niveau de l'artisanat, c'est que c'est des commandes. Les grands peintres de la Renaissance travaillaient sur commande.
C'est vrai.
Et
même beaucoup d'artistes aujourd'hui continuent de travailler sur commande. Le tatoueur, la tatoueuse, sans doute, est artiste, mais est-ce que le client aussi ne pourrait pas y prétendre dans le choix et l'agencement des motifs qui recouvrent son corps? Est-ce que le tatouage ne serait pas l'occasion de devenir sa propre œuvre d'art? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je suis une œuvre d'art.
D'accord, oui. Eh bien très bien.
Moi, voilà.
La réponse est claire.
On se tatoue aussi, c'est pour être. Moi, c'est pour être belle et tout, et ça me fait sentir belle. Je me trouve vachement canon. Donc, c'est une œuvre d'art.
Bon, en tout cas, pour les femmes, c'est clairement une réappropriation du corps. Ouais. Hein.
Yes. Drop the mic.
Et alors, Maxime, est-ce que t'envisageais ça comme ça quand t'allais te faire tatouer?
Ah oui, non, je suis totalement d'accord. Je suis aussi giga badass.
Alors mais... il faut... non, tu voulais continuer, pardon.
Non, non, mais ouais, je suis totalement d'accord avec ça.
Ok, bah, très bien. Il faut à présent qu'on parle d'un événement important qui arrive début avril, c'est la Tattoo Convention. Alors d'abord, c'est quoi une convention de tatouage?
C'est une grande réunion entre collègues où certains sont contents de se retrouver et d'autres moins.
Okay. C'est comme le salon de l'agriculture un peu. Mais...
mais version gribouilleur de peau, c'est génial.
Il y a peut-être un petit peu moins de kouma éthylique. Il
y en a eu zéro cette année. Par rapport à l'année dernière où il y en a eu 80.
Attends, 80 dans le, à celui du Mans 80
non,
comment
non, on parle de la salle de l'agriculture.
Okay.
Un peu moins
autant,
de vaches.
Autant pour moi. Autant pour moi. Alors, la prochaine convention au Mans aura lieu le 13 et le 14 avril au Parc des Expositions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette quatrième édition? Parce que vous n'êtes pas spécialement au courant de la programmation, je ne sais pas.
On a hâte d'y aller, comme tous les ans, ça va être une super teuf. C'est toujours un plaisir de retrouver nos habitués, de découvrir de nouvelles personnes. Et puis, c'est toujours l'occasion annuelle de revoir des collègues qu'on a parfois l'occasion de voir qu'à ces moments-là. Parce que, bah, mine de rien, bosser le samedi, c'est bien, mais ça, au niveau de la vie sociale, ça coince quand même parfois des fois. Et du coup, il va y avoir des concerts, va y avoir des exposants, va y avoir des tatoueurs, va y avoir des stands de merch. C'est un petit peu notre mini fête nationale mensuelle, quoi. Nous, on adore. Hein.
Et alors, on peut se faire tatouer sur place, c'est ça?
Ouais.
Il vaut mieux prendre rendez-vous en amont, j'imagine, parce que il doit y avoir peu de places disponibles.
Ça dépend de la manière dont chacun travaille, encore une fois, de chaque tatoueur. Soit il y en a, toi par exemple, Clément, tu.
Ah, mais moi, c'est vous venez comme vous êtes. Hein.
Voilà. Et on a même une machine.
C'est le McDo du tatouage.
On a même une machine où tu mets une pièce dedans. Tu sais, les boules de comme quand on était gamin aux entrées des supermarchés, tu mets une pièce et puis t'as un bonbon qui passe. Bah là, c'est un flash tatou que t'as pas choisi et qui
ah ok d'accord
imposé.
Ça marche. Imposé. Tu veux mettre tu repayes un bal.
Faut mettre plus qu'une pièce par contre. Ouais.
c'est pas juste un bal. Mais voilà, ça dépend. Moi, je sais que je suis bookée sur une journée, grosse journée, pour pouvoir faire une grosse pièce. Mais le lendemain, je m'octroie de faire que des flashs, par exemple. Parce
d'accord.
Que passer 8 heures sur une pièce, le lendemain, je vais avoir les yeux en face des trous. C'est clair. Donc, je vais la jouer mollo. Voilà.
Serait-ce pour le best of day?
Peut-être.
Alors, est-ce que pour finir, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques concernant le boudoir brutal et la nuit des temps?
Vas-y, vas-y.
Eh ben, boudoir brutal tout attaché @gmail.com. Voilà, venez nous aussi, on a du café.
et du thé.
Ouais, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le thé. N'hésitez pas à ramener des petits gâteaux. On aime toujours ça. Et puis on les partagera, hein, on mangera pas que tout pour nous. Et voilà, et si vous voulez contacter notre collègue Axel Jubier, et ben, axeljubier@gmail.com.
Et nous, bah, c'est principalement Instagram, NDT Tattoo.
NDT, ok.
Non, ouais. Alors attention, parce qu'à Tattoo, il y a 2 T.
Ok, d'accord.
Ouais, une petite précision. Et pareil, le site internet ndttattoo.com.
Il y a un formulaire à remplir si jamais vous voulez prendre contact, si vous n'avez pas les réseaux sociaux. On a également la porte grande ouverte du mardi au samedi, de 10h à 19h quasiment. Là, au 105 Grande Rue, donc à 50 mètres d'ici.
Ça marche.
En face des Compagnons du Doigt.
50 mètres de l'AMJC Prévert.
Voilà.
Du coup.
Et nous, on est cachés.
Vous êtes un peu planqués, oui.
Mais... faut nous trouver.
C'est un pratique.
C'est un jeu de piste.
Bon, faut le
Il
mériter,
faut le mériter pour nous avoir.
Merci à vous tous, en tout cas, Bloody Mary, Mimi Magma du Boudoir Brutal, Anna Madison et Clément de La Nuit des Temps, ainsi que Maxime, Margot et Axel pour être revenus dans l'amphi parler de ce vaste sujet qu'est le tatouage. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci
à toi.
Merci.
Bonne soirée.
Et alors, on se quitte en musique. Comme d'habitude, vous pouvez gagner des places pour des femmes respectables à Ève le 21 mars en appelant au 02 43 24 37 37. Pendant qu'on écoute Tattoo Vampire par Blue Oyster Cult. Just to send you. Merci d'avoir suivi l'Amphi. La prochaine aura lieu ce lundi 11 mars. Et si tout se passe bien, ce sera une émission spéciale Drag Queen, où j'inviterai quelques Drag Queens du Mans pour faire découvrir le monde vaste, étrange et magique du drag. A bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.